cours de théologie naturelle par le Père Marie-Dominique Philippe, le 14 juin 2001 à Saint-Jodard.
La vérité tout entière, c'est celle que nous avons par le jugement de sagesse. Il ne faut pas oublier, tant que nous n'avons pas le jugement de sagesse, nous n'avons pas la vérité tout entière. Je dis ça parce que dans la prière, nous demandons toujours la vérité tout entière. Et comme nous sommes dans le jugement de sagesse, c'est ça qui doit nous intéresser d'une façon toute spéciale. Parce que c'est par là que notre philosophie est directement utilisable. Ça, c'est le Saint-Père qui le dit. Je ne le dis pas parce que le Saint-Père le dit, je le répète pour avoir une autorité plus grande. Mais au fond, en réalité, on n'a pas le droit de s'arrêter en philosophie avant le jugement de sagesse. On a le droit de s'asseoir, prendre un strapontin, s'arrêter un petit moment, c'est évident. Après chaque palier, philosophie de l'art, on s'arrête. Philosophie éthique, on s'arrête. Philosophie éthique et politique. La réflexion spéculative sur la nature, sur la vie, sur l'être, sur Dieu. Et la conséquence de la théologie qui regarde Dieu, c'est que une fois qu'on regarde Dieu, on a la possibilité, oui, c'est par là qu'on est fils, même naturellement, c'est qu'on peut regarder comme Dieu regarde. C'est ça qui est si impressionnant dans le regard de sagesse. Alors évidemment, pas avec la lumière de Dieu, avec un petit brin de lumière, mais un petit brin de lumière qui est plus que tout le reste, une lumière de sagesse. On regarde comme Dieu regarde, petite fenêtre. Comment Dieu regarde l'homme. Et c'est ce qu'on fait en voyant le jugement de sagesse sur l'homme, sur la personne humaine. C'est la personne que Dieu regarde. Parce que le gouvernement de Dieu, c'est la personne. C'est pas la nature. C'est pas le bien commun que Dieu regarde en premier lieu. Le bien commun sont les hommes qui regardent ça en premier lieu. Ils sont très inquiets pour le bien commun. Mais Dieu regarde le bien personnel. Et c'est ça que les hommes ont tellement de peine à comprendre. Mais même les religieux, ils ont une peine énorme à comprendre que Dieu regarde en premier lieu la personne. Et que notre regard de sagesse doit regarder la personne. Le gouvernement de Dieu est personnel. Le gouvernement du triste bon pasteur connaît ses brebis. Il les connaît toutes par leur nom. C'est la personne, le nom. Ah, ça, c'est très important, parce que ça change toute la théologie. Vous comprenez ? Saint Thomas l'a vu. Saint Thomas a explicité au point de vue scientifique, le point de vue de la nature. La personne se comprend par la finalité. Une personne qui ne sait pas où elle va, ce n'est pas une personne. C'est un errant. Mais quand je sais où je vais, ah, ma personne se développe. La personne connaît la finalité. Elle la voit, la finalité. Alors, le regard de Dieu sur la personne, on est obligé d'aller vite parce que on est en fin d'année. Ce regard sur mon autonomie, c'est là où la personne atteint sa dimension fondamentale. Dieu crée mon âme. Cet être spirituel qui est mon âme. Cet être immatériel qui est mon âme. Dieu crée mon âme, ce qui met une dépendance radicale à l'égard de Dieu, fondamentale. Je ne peux rien faire sans cette dépendance à l'égard de Dieu. Et une autonomie vitale. Dépendance dans l'être, autonomie dans la vie. Alors, tout de suite, je vois la distinction être et vie, hein, appliquée. Et que cette distinction âme, cette dépendance, cette distinction être et vie est capitale. Si je ne la vois pas, je tombe ou dans l'athéisme ou dans l'ontologisme. Les deux extrêmes. Il faut regarder ça. Et c'est un regard très net sur les philosophies, toutes les philosophies, toute la philosophie de l'Europe, toute la philosophie de l'Amérique, toute la philosophie de l'Inde. C'est toujours ça. Foncièrement, c'est ça. Cette espèce d'hésitation, parce qu'on a peur de faire cette distinction fondamentale être et vie. C'est vrai, parce que ça fait toucher notre radicale dépendance à l'égard de Dieu. Dieu est un Dieu terrible. C'est là où on voit très bien Terribilis Deus. C'est vrai, le tremendum qui a été très développé dans le point de vue religieux, le tremendum. On a cette crainte radicale de celui qui n'est rien en face de Dieu. Tout dépend du bon plaisir de Dieu. C'est pas commode de saisir ça. Et de le saisir en réalité. Et le tremendum, qui est à base de l'attitude religieuse, de l'adoration. Alors, vite, on proclame la liberté. Oui. En France, avec la Révolution, liberté, égalité, fraternité. Mais il n'y a rien de tout ça. Puisque avant, il doit y avoir dépendance radicale à l'égard de Dieu. Il n'y a pas de liberté autrement. Votre autonomie dépend de votre dépendance. Elle s'enracine dans votre dépendance. C'est le prof de la créature. Et c'est le jugement de vérité sur la créature. C'est pas étonnant qu'il y a en vous une espèce de dualité constante. La dualité fondamentale, elle l'a. Elle est cet esprit d'indépendance qui commence à pousser dans le petit bonhomme qui commence. Le petit Parisien, il dit vite qu'il est libre. Hein. Très vite. Je suis libre. Il dit, mais non, tu adores. Et c'est normal de sentir très profondément ce dualisme en nous. Vous voyez, la créature est double. Elle n'a pas d'unité. Quand saint Thomas dit omnino simplex, Dieu est tout à fait simple, mais il proclame. Ce qui est tout à fait particulier en Dieu, c'est qu'il est tout à fait simple. Et nous, on a toujours une nostalgie de la simplicité. Les artistes, l'artiste en nous a toujours une nostalgie de la simplicité. Et simplicité est divine. En nous, il y a la dualité. Et la dualité la plus foncière en nous, c'est celle être et vie. C'est une dualité qui existe dans toute la philosophie, qui existe dans toute la théologie. Il faut la saisir, et il faut la saisir à son origine. Et la saisir à son origine, c'est saisir en nous l'autonomie et la totale dépendance à l'égard de Dieu. Moi, j'y reviens parce que c'est capital, hein, ça. De savoir que ça, en nous, ce qui est premier dans notre personnalité, c'est ça. C'est saisir cette dualité. Et dans la philosophie hegelienne, c'est l'ontologisme parfait. Hegel veut être simple comme Dieu. Et c'est pour ça que c'est la connaissance et se contempler. Et l'athéisme, Sartre, il veut être simple dans son néant. C'est une trouvaille. Et c'est vrai, c'est une trouvaille. Simple dans son, se complaire du néant. Voyez, cette espèce de fausse complaisance, hein, de complaisance erronée, le vide. Dans le zen, il y a un peu ça. On se complaît dans le rien. Personne ne vous dérange quand vous êtes dans votre rien. Et vous êtes vous-même. Vous voyez, c'est une façon caricaturale d'être Dieu. Je crois que c'est très important, justement, de comprendre. Premier attribut divin en théologie scientifique, la simplicité. Alors, si on est astucieux, on peut dire oh, l'homme, paralement, c'est un être complexe. Et la première complexité, la première dualité qui est en nous, est être et vie. Elle est radicale, celle-là. Elle revient tout le temps. Seconde complexité, intelligence et volonté. Oh, c'est curieux. Intelligence et volonté. C'est la répercussion de la distinction fondamentale être et vie qu'on retrouve au point de vue vie. C'est normal, hein, parce que la distinction être et vie. Du côté de l'être, cette distinction sera essence et existence. Et du côté de la vie, ce sera intelligence et volonté. Je vois que en moi, mon intelligence n'est pas substantielle. Elle participe. Si elle était substantielle, elle ne pourrait pas être participée. Donc elle serait divine. Elle est divine, mais elle n'est pas Dieu. Mon intelligence est sacrée, parce qu'elle peut atteindre le divin, parce qu'elle peut atteindre Dieu. Mais elle l'atteint à sa manière d'intelligence créée, tu vois, d'être spirituel créé. Et je retrouve dans ma vie intellectuelle, si je poussais, et je voulais pousser bout, je ris dans mon intelligence, je vois distinction réelle entre appréhension et jugement. C'est terrible. Je peux appréhender quelque chose qui n'est pas réel. Et ça explique la folie. Parce que le fou, c'est ça. Hein, on est fou quand On confond. C'est une folie douce. Folie très douce, mais qui peut aller très loin. C'est quand on confond appréhension et jugement. Parce qu'on croit que tout ce qui est possible existe. Le possible peut très bien ne pas exister. L'être de raison. Et les mathématiques développent ça. Développe le possibilité comme s'il était réel. Et le mathématicien est bien obligé de dormir et de se réveiller. Et un jour, il se réveille en voyant toute cette construction du possible. Ah, c'est pas le réel. Et j'ai toujours... La distinction première, être et vie qui se répercutent. La distinction entre appréhension et... Parce qu'appréhension, c'est l'intelligible. Aristote a dit la quiddité. C'est très joli. Pour Platon, c'est la forme. Or, la forme, elle est réelle aussi. Donc, il n'a pas distingué intelligibilité et forme. Il a voulu... que ce soit comme Dieu. Tandis que ma pauvre intelligence, parce que c'est la dernière des intelligences, il n'y a pas plus petit que l'intelligence humaine. L'animal n'est plus intelligent. Et mon intelligence... elle est toujours avec ses deux béquilles. Elle va très loin au point de vue de l'appréhension. Et puis, tout le temps, ça demande d'être vérifié par le jugement. Et c'est très intéressant de regarder ça, parce que dans tous les auteurs qui ont réfléchi, ils ont vu une dualité dans l'intelligence. Et ça, ce serait très intéressant de voir la manière dont tous les philosophes, les grands philosophes, ont vu cette dualité, la manière dont Kant voit cette dualité, la manière dont Aristote voit cette dualité, la manière dont Platon voit cette dualité. Alors je crois que c'est toujours pris parce qu'il y a une dualité foncière, être et vie. Oui, et ça, c'est le jugement de sagesse qui m'apprend ça et qui me donne cette espèce de lumière nouvelle sur mon intelligence. La regarder comme Dieu la regarde. Et je vois que je suis intelligent en appréhendant, en assimilant les... l'intelligibilité, mais je ne suis pas intelligent uniquement par là. Je suis surtout intelligent par le jugement. Juger, c'est discerner. Hein, on est intelligent quand on sait discerner. Quand on fait des amalgames, ça prouve qu'on est bête. Oui, parce qu'on voudrait être comme Dieu, alors qu'il fait Dieu fait la bête. Et c'est vrai, parce qu'il oublie la chose tout à fait élémentaire, que mon intelligence, elle est tout le temps entre appréhension et jugement. Mon intelligence a ceci de merveilleux, c'est qu'elle peut atteindre l'existence de Dieu. Je dis bien atteindre l'existence de Dieu. Donc, atteindre Dieu par le jugement. Je n'atteins pas Dieu par l'appréhension. Alors, toutes les philosophies qui ramènent tout à l'appréhension, c'est-à-dire tous les idéalistes, ne peuvent pas atteindre Dieu. Ils s'imaginent. Mais n'atteindre pas Dieu. Je n'atteins Dieu que par l'existence, que par le réalisme de l'existence. Parce que Dieu, c'est la réalité suprême. Et c'est ça que j'attends en premier lieu à Dieu. Je n'atteins pas son essence. J'atteins ce qu'il est. Et je l'atteins grâce à l'analogie. Ah. Dans un jugement de sagesse, je comprends pourquoi mon intelligence est analogique. Mon intelligence est analogique parce que justement, il y a une distinction entre appréhension et jugement. C'est l'analogie, c'est le cri de désespoir de l'appréhension qui n'atteint pas le réel. Alors, qui accepte la diversité dans l'unité, mais qui reconnaît que la diversité est première pour moi et je cherche l'unité. Si je fais l'inverse, je m'enferme. Vous voyez ? Chercher dans l'universel le réel directement, c'est vouloir appliquer la loi sur le singulier. Oui, les gens qui sont séduits par la loi cherchent les lois de tout. Il faut chercher la loi de tout. Tant que je n'ai pas la loi, tant que je n'ai pas la définition et la loi. Parce que la définition, c'est la loi de l'intelligibilité. Alors, tant qu'on cherche, on veut l'appliquer, et on applique la loi au réel. Donc, on veut trouver le singulier à travers l'universel. Vous voyez ? Cette espèce de ténacité qu'on a à vouloir être comme Dieu. La première tentation, hein. Vous serez comme Dieu. C'est une tentation radicale, constante. Alors, Dieu, en lui-même, voit chaque individu. Dieu, qui est tout, en lui-même voit chaque individu, parce que en Dieu, l'universel et le singulier ne font qu'un. Il est. L'analogie, c'est l'humilité de l'intelligence qui accepte de comprendre que la diversité a quelque chose qui me conduit à saisir ce qu'il y a de commun. Donc, dans la diversité, je cherche ce qu'il y a de commun. Et ce qu'il y a de commun me permettra de rejoindre le jugement. Au fond, l'analogie, c'est vouloir unir l'appréhension et le jugement. En dehors de l'analogie, l'appréhension est totalement différente du jugement, puisque l'appréhension va vers l'universel et demeure dans l'universel, et le jugement est autre, c'est le singulier. Dans l'analogie, je veux que le singulier soit toujours présent. Ceci est. Jugement d'existence. Il est présent à travers toute ma philosophie. Parce qu'autrement, je resterai dans le possible. Et je n'atteindrai pas le réel. Ceci est. Et pour cela, il faut cette connaissance analogique. C'est très important de comprendre que l'analogie, c'est ce désir profond d'intelligence d'accepter d'être une créature et d'être pourtant une intelligence qui a quelque chose de divin. C'est le quelque chose de divin que je cherche dans l'analogie. Et ça va très loin, ça. Connaître est distinct de l'amour. En moi, la connaissance et l'amour sont distincts réellement. La connaissance cherche l'intelligibilité. Elle montre que l'intelligibilité n'est pas le réel. L'intelligibilité existe dans le réel, mais n'est pas le réel. L'acte d'être est dans l'exister. Et la bonté d'une réalité implique toujours son existence. Il n'y a pas de bonté idéaliste. Il n'y a pas de bonté universelle. La bonté est dans ce qui existe en singulier. Donc, la grande différence qu'il faut saisir, c'est entre le jugement qui porte sur le singulier et l'amour qui porte sur la bonté du singulier. Il y a donc dans le singulier deux faces. Son intelligibilité que je saisis grâce à l'appréhension et sa bonté qui m'attire. Alors, il y a ces deux mouvements dans mon esprit. Et ces deux mouvements sont réellement distincts. Je désire tout ramener à mon intelligence, connaître. Connaître, c'est attirer à moi. Connaître, c'est m'assimiler les réalités. Et puis, aimer. Aimer, c'est aller vers. Je vais vers le bien qui m'attire, vers le bien qui me finalise, aimer. C'est les deux grandes tendances de l'esprit, de l'être spirituel. Et ces deux tendances sont réellement distinctes. Elles s'unissent dans le jugement d'existence, dans le singulier. La bonté est toujours singulière, parce qu'elle existe. Tandis que l'intelligibilité peut être universelle. Je vois donc en moi, cette dualité qui, en Dieu, n'existe pas. En Dieu, il est lumière et amour. Et la lumière et l'amour ne fait qu'un. Dieu est parfaitement intelligible et parfaitement bon. Et je recherche l'unité entre l'intelligence et la volonté dans la connaissance sapientiale. Je remonte pour dépasser cette dualité. Cette dualité est nécessaire pour bien comprendre ce qu'est l'universel, pour pouvoir bien analyser. J'analyse du côté de l'intelligence, parce qu'il y a appréhension et jugement, et toute analyse implique cette distinction entre les deux. Et je vois que au-delà de l'analyse, il y a ce jugement d'existence singulier et la réalité singulière est bonne. Elle m'attire. Elle est capable de m'attirer. Je vois donc ce double mouvement de l'être spirituel que je suis. J'assimile, je prends vers moi. Tout ce que je connais, je le tiens en moi. Et en même temps, j'aime. Je sors de moi vers le bien qui m'attire. Il y a donc une distinction réelle entre la recherche de la cause formelle et la recherche de la cause finale. Les deux ne doivent pas dialectiquement s'opposer. Les deux peuvent s'unir grâce à l'analogie. Je saisis que dans l'intelligibilité de la réalité, il y a le singulier que je saisis par le jugement. Donc, il y a une intelligibilité propre de l'acte d'être. Et cette intelligibilité propre de l'acte d'être, qui n'est pas l'universel, qui est le singulier, est encore distincte de son appétibilité. Il est désirable, il est bon. Donc il y aura une distinction en moi, une distinction réelle, entre l'intelligence qui cherche l'intelligibilité et l'amour. Et ces deux mouvements peuvent sembler en opposition, parce que d'un côté c'est l'assimilation, d'autre côté c'est le don. Vous voyez ? Que la dualité entre intelligence et volonté est résorbée grâce au jugement d'existence. Et c'est la seule manière de pouvoir résorber cette dualité. Autrement, je chercherai l'intelligibilité et je laisserai tomber l'amour. Les mathématiques ne disent rien sur l'amour. Les pythagoriciens ont cherché. Par le nombre, c'est la réalité. Et donc, je peux l'aimer. C'est assez... Le pythagorisme est comme ça. On cherche dans le nombre à aimer. Au fond, dans la phénoménologie, on a la même tentation. Le vécu est aimable. En réalité, c'est le jugement d'existence qui ne se réalise pas dans l'assimilation. Je ne peux pas assimiler l'être. J'y adhère. C'est pas assimilé. Je reconnais que l'être est transcendant par rapport à moi. Donc je ne l'assimile pas. Et parce que je ne l'assimile pas, je puis avoir vis-à-vis lui un mouvement d'amour. Alors que si je ramenais toute la connaissance à l'appréhension, à l'assimilation, je verrais toujours l'opposition entre intelligence et amour. Je resterai d'un côté dans l'universel et de l'autre côté, je regarderai le singulier. C'est donc très important de voir comment la diversité de l'intelligence et de la volonté peut se résorber par l'existant singulier qui garde son intelligibilité propre et qui peut être ce qui m'attire, ce que j'aime. C'est très important ça, concrètement dans notre vie, parce qu'autrement nous restons dans une dualité constante. Nous développons notre intelligence et nous appauvrissons notre cœur. Nous développons notre cœur et nous appauvrissons notre intelligence. L'affectivité cherchée pour elle-même appauvrit le cœur. L'affectivité cherchée pour elle-même appauvrit l'intelligence. L'intelligence cherchée pour elle-même appauvrit le cœur. C'est constamment comme ça. Au fond, l'équilibre foncier qui est en nous, c'est entre intelligence et volonté. C'est les deux grandes forces spirituelles qui sont en nous. Et ces deux grandes forces spirituelles s'unissent dans la sagesse. Il y a quelque chose de divin dans la sagesse, de sacré. Dans l'amour, qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Dans l'amour, qu'est-ce qu'il y a de plus grand dans l'amour? Un jugement de sagesse sur l'amour. Hein. Aimer Dieu. L'amour le plus élevé, c'est un amour de réciprocité. Il est déjà présent pour nous dans l'amitié. Il y a réciprocité. Parce que dans l'amour d'amitié, j'aime l'amour. Si on aime l'amour, on va plus loin que d'aimer la réalité. Et c'est le propre de l'amour. C'est le propre de la réciprocité dans l'amour d'amitié. Je me sers que mon ami m'aime pour l'aimer plus. Parce que l'amour a toujours une espèce de pudeur très grande. Hein. Le jour où l'amour n'a plus de pudeur, c'est triste. L'amour est toujours dans un état de naissance, de petitesse, de délicatesse. Et c'est quand il y a une trop grande familiarité, il n'y a plus d'amour. La fusion, c'est plus l'amour. L'amour a toujours cette délicatesse, ce respect de l'autre, qu'on vénère et qu'on aime. L'ami doit être ami, autre que moi. Il ne peut pas être moi. Le jour où je prends l'ami comme moi, je ne l'aime plus. C'est moi que j'aime. J'aime plus l'ami. C'est très net. Et c'est ça, la familiarité mauvaise, c'est ça. C'est que l'ami perd son autonomie, perd son altérité. Et cependant, ce qu'il y a de plus grand dans l'amour, c'est d'aimer l'amour. Or, ce qu'il y a de merveilleux dans l'amour divin, c'est que j'aime l'amour. Je ne peux pas aimer Dieu sans que Dieu m'aime. Et c'est pour ça que la connaissance sapientiale, c'est d'aller au-devant de celui qui vient vers moi. Et parce qu'il vient vers moi, il vient vers moi en m'aimant, je peux l'aimer parce qu'il vient vers moi. C'est ce que saint Augustin exprime. On ne découvrirait pas Dieu si Dieu n'était pas déjà là. Et ça, c'est très grand de découvrir dans l'amour cette possibilité d'aimer l'amour. Et d'aimer l'amour en respectant toujours que l'autre est autre. Qu'il a sa propre vie. Qu'il a sa propre personnalité. Autrement, chacun part. Alors, vous voyez, je confonds l'amour avec l'assimilation. La connaissance se fait par assimilation. Je mange l'autre. L'amour, je tends et j'aime l'autre en me donnant. Et non pas en accaparant, mais en me donnant. Je suis tout entier à l'autre. Et donc, cette dualité seconde en moi, entre intelligence et volonté. La troisième distinction, la quatrième distinction, c'est de distinguer l'ordre pratique et l'ordre spéculatif. J'ai deux démarches intellectuelles. La démarche intellectuelle de l'artiste, de l'homme prudent et du philosophe, du contemplatif. Spéculatif, ça veut dire contemplatif, hein, faut pas l'oublier. Donc la démarche contemplative et la démarche active, hein, pratique. En Dieu, il n'y a pas de distinction entre le point de vue pratique et le point de vue spéculatif. La contemplation de Dieu est pratique. La contemplation n'est pas pratique. Il y a donc une nouvelle connaissance de moi-même qui se fait par la prudence. Cette petite sagesse, cette sagesse pratique. Je crois qu'on doit arrêter plus vite.